Il ne lui fallut qu'un instant pour régler son bouclier corporel. Il s'arrêta pour sentir la peau se tendre sur son front, lui confirmant qu'il était paré. C'était là un spectacle, et Feidrofa se mit à orchestrer les émotions de main de maître. Il fit signe à ses manipulateurs et distracteurs, vérifiant d'un coup d'œil leur équipement, les fers avec leurs pointes acérées et brillantes, les crochets et les barbes où flottaient les banderoles bleues. Puis il leva la main à l'adresse des musiciens. La marche lente, aux accents anciens, s'éleva dans l'arène et Feidrofa, à la tête de sa troupe, s'avança vers la loge de son oncle. Il saisit la clé de la cérémonie qu'on lui lançait. La musique se tut. Dans le silence soudain, il prit deux pas de recul, leva la clé et cria « Je dédie cette vérité à… » Il s'interrompit, devinant les pensées de son oncle. « Ce jeune fou va dédier la vérité à Dame Fenring, envers et contre tout, et provoquer un scandale. » « À mon oncle et supérieur, le baron Vladimir Harkonnen !» acheva Feidrofa. Avec délice, il surprit le soupir de son oncle. La musique entama une marche plus rapide, et avec ses hommes, Feidrofa traversa l'arène en direction de la porte de prudence que ne pouvaient franchir que ceux qui arboraient le ruban spécial d'identification. Il se félicitait de n'avoir jamais eu à utiliser cette porte et d'avoir eu rarement recours aux distracteurs. Mais en ce jour, il était bon de savoir qu'il pouvait en disposer. Les plans spéciaux recèlent parfois des dangers spéciaux. À nouveau, ce fut le silence sur l'arène. Feidrofa se retourna et fit face à la large porte rouge par laquelle devait surgir le gladiateur. Le gladiateur spécial. Le plan mis au point par Tufir Hawat était d'une simplicité admirable, songeait Feidrofa. L'esclave ne serait pas drogué. Là résidait le danger. Au lieu de cela, un mot-clé avait été implanté dans son inconscient qui, à l'instant critique, provoquerait l'immobilisation des muscles. Feidrofa se répéta plusieurs fois le mot, en silence. Rakai. Aux yeux de l'assistance, tout se passerait comme si l'on avait réussi à introduire dans l'arène un esclave non drogué afin de tuer le Nabaron. Et les preuves évidentes et soigneusement préparées désignerait le maître des esclaves comme coupable. Un ronronnement sourd s'éleva de la porte rouge à l'instant où les servomoteurs d'ouverture étaient mis en route. Feidrofa concentra tous ses sens sur la porte. Le premier instant était le plus critique. À la seconde où le gladiateur apparaissait, un œil entraîné pouvait apprendre tout ce qu'il lui fallait savoir. Tous les gladiateurs étaient censés être sous l'influence de l'Elaka, prêts à mourir au combat. Mais il fallait observer la façon dont ils brandissaient le couteau, dont ils paraient, qu'ils eussent ou non conscience de la foule. Une simple inclinaison de tête pouvait fournir un indice vital pour le combat, les attaques et les feintes. La porte rouge s'ouvrit. L'homme qui en surgit était grand, musculeux, le crâne rasé, les yeux sombres, profondément enfoncés. Sa peau avait la teinte rouge carotte que conférait l'Elaka. Mais Feidrofa savait que ce n'était en réalité qu'une application de teinture. L'esclave portait des collants verts et la ceinture rouge d'un semi-bouclier, sur laquelle une flèche blanche, pointée vers la gauche, indiquait le flanc non protégé. Il tenait son couteau ainsi qu'une épée, légèrement pointée en avant, dans l'attitude d'un combattant expérimenté. Lentement, il s'avança dans l'arène, présentant son côté protégé à Feidrofa et aux hommes rassemblés près de la porte de prudence. « Je n'aime pas l'allure de celui-là, » dit l'un des piqueurs de Feidrofa. « Êtes-vous certain qu'il soit drogué, monseigneur ?»« Il en a la couleur, » dit Feidrofa. « Pourtant, il est en position de combat, » dit un autre. Feidrofa fit deux pas dans le sable, étudiant son adversaire. « Qu'a-t-il donc fait à son bras ?» demanda l'un des distracteurs. Le regard de Feidrofa se porta sur la cicatrice qui marquait l'avant-bras gauche de l'esclave. Puis il vit la main qui lui désignait le dessin sanglant tracé sur la cuisse gauche du collant. Un faucon stylisé. Un faucon. Feidrofa regarda droit dans les yeux sombres et les vit briller d'excitation. « C'est l'un des hommes du duc que nous avons capturé sur Arrakis, » se dit-il, et non un simple gladiateur. Il eut un long frisson et se demanda si le plan de Hawat n'était pas tout différent de ce qu'il en connaissait, s'il n'y avait pas un stratagème dans le stratagème. Même ainsi, seul le maître des esclaves apparaîtrait comme coupable. Le chef de ces hommes se pencha à son oreille. « Je n'aime pas du tout son allure, monseigneur. Laissez-moi lui planter une ou deux piques dans le bras. »«
Je les planterai moi-même, » dit Feidrofa.
Il prit à l'homme deux dards à crochet, les souleva, éprouvant leur équilibre. Ses piques aussi étaient d'habitude enduites de drogue, mais pas cette fois, et il pourrait en coûter la vie au chef des aides. Mais tout cela faisait partie du plan. « Après, tu seras un héros, » se dit Feidrofa. Tu auras tué ton gladiateur en homme, malgré la traîtrise. Le maître des esclaves sera exécuté et ton homme le remplacera alors. » Feidrofa fit encore 5 pas dans l'arène, observant toujours l'esclave. Il savait que, déjà, les experts présents dans les loges avaient compris que quelque chose était anormal. Le gladiateur avait la couleur de peau d'un homme drogué, mais il demeurait fermement sur sa position et ne tremblait pas. Les aficionados devaient murmurer entre eux « Regardez comme il se tient. Il devrait s'agiter pourtant, attaquer et battre en retraite. Mais il garde ses forces, il attend. Il ne devrait pas. » Feidrofa sentit croître sa propre excitation. « Trahison ou non, se dit-il, je peux l'abattre. Et c'est dans mon long couteau que se trouve le poison aujourd'hui, pas dans le plus court. Même Hawat ignore cela.
Hé, Harkonnen ! Lança l'esclave. Es-tu prêt à mourir ?
Un silence de mort tomba sur la reine. Jamais les esclaves ne lançaient le défi. À présent, Feidrofa voyait les yeux de l'homme. Il pouvait y lire la férocité glacée du désespoir. Il nota la façon dont l'homme se tenait, décontracté, vigilant, tous ses muscles prêts à la victoire. Le télégraphe secret des esclaves avait dû lui apporter le message de Hawat. Tu auras une chance réelle de tuer le Nabaron. Mais cela, il l'avait mis au point ensemble avec Hawat. Un sourire furtif vint jouer sur les lèvres de Feidrofa. Il leva les piques. Dans la position du gladiateur, maintenant, il entrevoyait le succès de ses plans.
« Ah 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 !» cria l'esclave, et il fit 2 pas en avant, lentement.
« Maintenant, » songea Feidrofa, « nul ne peut plus être abusé. » Cet esclave aurait dû être en partie paralysé par la terreur suscitée par la drogue. Chacun de ses mouvements aurait dû trahir son désespoir, la certitude que, pour lui, il n'y avait ici aucune chance de gagner. Il aurait dû avoir en tête les histoires innombrables qui circulaient à propos des divers poisons dont le Nabaron se plaisait à enduire la courte lame qu'il tenait dans sa main gantée de blanc. Jamais, avec lui, la mort n'était rapide. Il se délectait à faire la démonstration de poisons rares et, dans l'arène, expliquait à l'assistance tel ou tel intéressant effet secondaire tandis que la victime se tordait au sol. Certes, il y avait de la peur en l'homme. De la peur et non de la terreur. Feidrofa leva haut les piques, inclinant la tête en un signe de semi-acquiescement. Le gladiateur attaqua. Ses feintes et ses contres était parmi les meilleurs que Feidrofa ait jamais vus. Un coup latéral, ajusté avec précision, manqua la jambe du Nabaron d'une fraction de seconde. Feidrofa rompit en sautant, laissant une pique dans l'avant-bras droit de l'esclave. La pointe était profondément enfoncée et les crochets sous la chair ne pouvaient être dégagés qu'en arrachant les tendons. Des cris étouffés montèrent des tribunes et Feidrofa se sentit envahi par l'exaltation. Il savait maintenant ce qu'éprouvait son oncle, assis là-bas en compagnie des Fenring, venus de la cour impériale pour observer. Dans ce combat, il ne pouvait y avoir d'interférence. Devant de tels témoins, les règles devaient être observées. Le baron ne pouvait traduire ce qui se passait dans l'arène que d'une seule manière, une menace contre sa personne. L'esclave recula. Il tenait son couteau entre ses dents et, à l'aide de la banderole, attachait le dard au long de son bras blessé.
« Je ne sens rien » cria-t-il avant de se remettre en marche, le couteau levé, offrant son flanc gauche tout en ployant le corps en arrière
pour profiter au maximum de la protection du semi-bouclier. Ce mouvement n'échappa pas aux tribunes. Des cris véhéments s'élevèrent des loges familiales. Feidrofa entendit les appels de ces hommes qui lui offraient leur assistance. D'un geste, il leur intima de gagner la porte de Prudence.
« Je vais leur donner un spectacle qu'ils n'ont jamais connu, » songea-t-il. « Pas une bonne tuerie bien organisée dont ils puissent admirer le style dans leur fauteuil. Non. Quelque chose qui va leur attraper les tripes et les tordre. Quand je serai baron, ils se souviendront de ce jour. Et à cause de ce jour, ils auront peur de moi et ne pourront m'échapper. »
Le gladiateur continuait de progresser comme un crabe et Feidrofa lui céda du terrain, lentement.
Ses pas crissaient sur le sable de l'arène. Il percevait le halètement de l'esclave, l'odeur âcre de sa propre sueur et aussi celle du sang.
Il se porta sur la droite, préparant sa seconde pique. L'esclave oscilla. Feidrofa fit mine de trébucher et entendit le cri qui venait de toutes les tribunes. Une fois encore, l'esclave attaqua.
Dieu, quel adversaire !
Songea Feidrofa en se dérobant. Seule la vivacité de la jeunesse le sauva, mais il laissa quand même un second dard profondément enfoncé dans le muscle deltoïde droit du gladiateur. Des applaudissements frénétiques plurent des tribunes.
Il m'acclame à présent, se dit Feidrofa.
Et il percevait la sauvagerie qui habitait les voix tout à coup, ainsi que l'avait prévu Hawat. Jamais encore il n'avait ainsi applaudi un champion familial. Il se souvint de ce que lui avait dit le Mentat. Il est facile d'être terrifié par un ennemi que l'on admire. Et cette pensée avait maintenant des échos sinistres. Rapidement, il battit en retraite vers le centre de l'arène, où il pourrait clairement percevoir chaque détail. Il sortit son long couteau, s'accroupit et attendit. L'esclave ne s'attarda que le temps de lasser la seconde pique au long de son bras, ainsi qu'il avait fait pour la première, puis il se remit en marche.
« Que la famille me regarde, » se dit Feidrofa. « Je suis leur ennemi. Il faut qu'ils pensent désormais à moi tel qu'ils me voient maintenant. »
Il brandit sa lame courte.
« Je ne te crains pas, porc d'Arconen, » dit le gladiateur. « Tes tortures ne peuvent t'atteindre un mort. Je peux mourir de ma propre lame avant qu'un de tes valets ne me touche, et tu mourras en même temps. »
Feidrofa sourit. Il pointait maintenant la longue lame, celle qui était enduite de poison. « Et c'est celle-ci » dit-il, et de l'autre main, il feinta avec la lame courte. L'esclave changea son arme de main et se tourna, parant et feintant dans le même temps pour se saisir de la lame courte du Nabaron, celle qui, dans la main gantée de blanc, selon la tradition, devait porter le poison.
« Tu vas mourir, Arconen !» souffla le gladiateur.
Ils se ruèrent l'un contre l'autre. Lorsque les boucliers entraient en contact, une lueur bleue naissait. L'odeur acide de l'ozone se faisait plus forte d'instant en instant.
« Meurs de ton propre poison !» gronda l'esclave.
Il se saisit de la main gantée de blanc de Feidrofa et la replia vers l'intérieur.
« Il faut que tous voient cela !» pensa Feidrofa.
Il abaissa la lame longue qui vint heurter en vain la pique lassée contre l'avant-bras de l'esclave. Un instant, il fut troublé. Il n'avait pas encore songé que ses propres dards puissent être, pour le gladiateur, un moyen de défense. Mais en vérité, il lui faisait une sorte de bouclier improvisé.
Et l'homme était fort.
Peu à peu, inexorablement, la lame courte de Feidrofa se rapprochait de sa chair et il se dit qu'un homme pouvait mourir par le couteau sans le moindre poison.
« Racaille !» cracha-t-il.
Au mot-clé, les muscles du gladiateur obéirent par un bref instant de flaccidité, ce qui suffit à Feidrofa. L'espace ainsi ouvert entre eux était suffisant pour permettre le passage de son long couteau. La pointe empoisonnée laissa un sillon rouge sur le torse du gladiateur. La souffrance fut immédiate. L'homme se dégagea et tituba en arrière.
À présent, se dit Feidrofa, que ma chère famille se régale. Qu'ils croient tous que cet esclave allait retourner contre moi la lame empoisonnée. Ils se demandent donc comment un gladiateur a pu ainsi pénétrer dans l'arène pour tenter de m'assassiner. Et qu'ils puissent ne jamais savoir avec certitude laquelle de mes mains porte le poison.
En silence, Feidrofa observait maintenant les gestes de l'esclave,
Celui-ci se déplaçait maintenant avec hésitation. Chacun pouvait lire sur son visage ce qui s'y dessinait clairement. La mort. L'homme savait ce qui venait de se passer et comment cela s'était passé. Il savait que le poison s'était trouvé sur le mauvais couteau.
« Toi !» coassa-t-il.
Feydrofa recula pour lui laisser assez de place pour mourir. Il fallait encore que l'élément paralysant du poison fît son effet, mais la lenteur des gestes de l'homme était, quant à cela, éloquente. Il tituba en avant, un pas après l'autre, comme tiré par quelque fil invisible. Et chaque pas semblait être le dernier. Il n'avait pas lâché son arme, mais elle tremblait maintenant entre ses doigts.
« Un jour, l'un de nous te tuera, » souffla-t-il.
Une petite moue triste vint déformer sa bouche. Il tomba assis, puis s'effondra complètement, se raidit et roula un peu plus loin, face contre terre. Dans l'arène silencieuse, Feydrofa s'avança et, du pied, retourna le corps de son adversaire afin que chacun dans les tribunes puis voir opérer le poison dans les convulsions du visage. Mais le couteau du gladiateur était planté dans sa propre poitrine. En dépit de la frustration qu'il éprouva soudain, Feydrofa ne put rejeter un élan d'admiration pour l'effort que l'homme avait dû accomplir pour lutter contre la paralysie. Et dans le même temps, il comprit qu'il devait réellement craindre quelque chose. Est terrifiant ce qui rend un humain surhumain. Comme il se concentrait sur cette pensée, Feydrofa prit conscience du bruit qui venait des tribunes et des loges tout autour de lui. Le bruit d'applaudissements sans retenue. Il se retourna alors et regarda l'assistance. Ils l'acclamaient, tous, sauf le baron qui, le menton dans la main, le contemplait, et le comte et sa dame dont le sourire était comme un masque. À cet instant, le comte se tournait vers sa dame et lui disait « Ah, un jeune homme plein de ressources, n'est-ce pas, ma chère ?»«
Ses réponses synaptiques sont particulièrement vives, » dit-elle.
Le baron la regarda, puis son attention se porta sur son époux avant de revenir à la reine. Et il songea « Dire que quelqu'un peut s'approcher à ce point de l'un des miens. » La rage maintenant remplaçait la peur. Cette nuit, le maître des esclaves sera mis à mort, lentement, sur un feu. Mais si ce comte et sa dame ont quelque chose à voir dans ceci... Feydrofa vit le signe d'agrément et pensa « Il croit me faire honneur. Qu'il voit donc ce que j'en pense. » Ses gens s'approchaient, le couteau scié en main pour les honneurs. D'un geste impératif, il les arrêta, les vit hésiter et réitéra son ordre. « Il pense m'honorer avec une tête, » pensait-il. Il se baissa, croisa les mains du gladiateur autour du manche du couteau dépassant de sa poitrine, puis arracha la lame et la plaça dans les doigts inertes. Cela fut fait en un instant. Puis il se redressa et fit signe à ses hommes d'approcher. « Enterrez-le ainsi, avec le couteau dans les mains, » dit-il. « Il l'a mérité. » Dans la loge dorée, le comte Fenring se pencha vers le baron et lui dit « Un beau geste que celui-ci. Quelle grandeur! Votre neveu a autant de style que de courage. »
« En refusant la tête, il insulte la foule, » grommela le baron.
« Pas du tout, »
dit Dame Fenring en se retournant et en portant son regard sur les gradins. Dans ce mouvement, le baron remarqua la ligne de son cou, le jeu adorable des muscles.
Adorable comme un jeune garçon.
Ils apprécient ce que vient de faire votre neveu,
dit-elle. Le baron regarda et vit que la foule, effectivement, avait correctement interprété le geste de Feydrofa. Jusqu'aux places les plus lointaines, chacun, maintenant, observait le corps intact du gladiateur que l'on emmenait. Et chacun hurlait, trépignait, s'excitait. D'une voix lasse, le baron déclara
« Il va me falloir ordonner une fête. On ne peut renvoyer ainsi le peuple sans qu'il ait dépensé son énergie. Il faut qu'ils voient que je partage leur excitation, leur joie. »
Il fit un geste à l'intention de ses gardes. Au-dessus de la loge, un serviteur abaissa par trois fois la bannière orange d'Arconen, donnant le signal de la fête.
Feidrofa traversa l'arène et vint s'arrêter devant la loge dorée. Il avait remis ses armes au fourreau et ses mains pendaient à ses côtés. Par-dessus la rumeur de la foule, il demanda « Une fête, mon oncle ?» Le bruit des voix innombrables décrut comme chacun essayait de percevoir la conversation.
« En ton honneur, Feid !» dit le baron.
Une fois encore, il fit abaisser la bannière orange. Dans l'arène, les barrières avaient été jetées à bas et des jeunes gens se ruaient sur le sable en direction du Nabaron.
« Vous avez fait abaisser les boucliers, baron ?»
demanda le comte Fenring.
« Personne ne portera la main sur le garçon. C'est un héros !» dit le baron.
Le premier des jeunes gens atteignit Feidrofa et le hissa sur ses épaules avant de s'élancer pour un tour d'arène.
Il pourrait aller sans armes et sans bouclier dans les quartiers les plus pauvres d'Arco cette nuit, dit le baron. On lui donnerait ce qui reste de nourriture ou de boisson pour la seule joie de sa compagnie.
Le baron quitta son fauteuil et assura sa masse dans ses suspenseurs.
Je vous prie de me pardonner, mais certaines questions requièrent mon attention immédiate. Le garde vous conduira.
Le comte s'inclina.
Mais certainement, baron. Nous allons nous préparer pour la fête. Je n'ai jamais vu une fête harkonnène.
Ah oui, la fête, dit le baron.
Il se détourna et, entouré de ses gardes, quitta la loge par l'issue privée. Un capitaine s'inclina alors devant le comte.
Quels sont vos ordres, monseigneur?
Nous allons attendre que la foule diminue pour passer.
Bien, monseigneur. Le capitaine s'inclina de nouveau et recula de 3 pas.
Le comte se tourna vers sa dame et s'adressa à elle dans leur langage codé, en murmurant
« Vous avez vu, n'est-ce pas ?» Le garçon savait que le gladiateur ne serait pas drogué. Il a éprouvé de la peur, sans doute, mais aucune surprise.
« Tout était préparé, dit le comte. Tout le combat.
Cela ne fait pas le moindre doute. Cela ressemble furieusement à Hawat.
Bien sûr.
J'avais exigé que le baron l'élimine.
C'était une erreur, mon cher.
Je le comprends maintenant.
Les Harkonnen pourraient avoir un nouveau baron avant peu.
Si tel est le plan de Hawat.
Ce qui demande réflexion, j'en conviens, dit Dame Fenring.
Le jeune sera plus susceptible d'être contrôlé.
Pour nous, après cette nuit.
Vous n'entrevoyez aucune difficulté pour le séduire, ma petite pouliche.
Non, mon amour. Vous avez vu vous-même la façon dont il m'a regardé.
Oui, et je comprends maintenant pourquoi il nous faut cette lignée.
Bien sûr. Et il est tout aussi évident que nous devons avoir une prise sur lui. Je vais implanter tout au fond de lui les phrases Prana Bindu qui permettront de le soumettre. Nous partirons aussitôt que possible, aussitôt que vous serez sûr, dit le comte.
Elle eut un frisson.
Coûte que coûte, je ne pourrais porter un enfant en un lieu aussi affreux.
Ce que nous le faisons au nom de l'humanité, dit-il.
Vous avez la part la plus aisée.
Je dois triompher cependant de certains préjugés anciens. Ils sont d'importance, vous le savez.
Elle lui tapota la joue.
Mon pauvre chéri, vous savez pourtant que c'est là le seul moyen de sauver cette lignée.
Il répondit d'une voix sèche.
Je comprends parfaitement ce que nous faisons.
Nous n'échouerons pas.
Le sentiment de culpabilité commence comme un doute, lui rappela-t-il.
Il n'y aura pas de culpabilité. Il n'y aura que l'hypno-liaison de la psyché de ce Feidrofa et son enfant dans ma matrice. Ensuite, nous partirons.
Son oncle, dit-il, avez-vous jamais rencontré un être aussi distordu?
Il est très redoutable, oui. Mais le neveu pourrait bien devenir pire encore.
Grâce à son oncle. Quand l'on songe à ce que ce garçon aurait pu devenir avec une autre éducation, celle des Atreides, par exemple.
C'est triste.
Nous aurions pu sauver le jeune Atreide comme celui-ci, reprit le comte.
D'après ce que j'ai entendu dire du jeune Paul, c'était un garçon remarquable, un résultat parfait sur le plan de l'hérédité et de l'éducation.
Il secoua la tête.
Mais ne pleurons pas en vain sur l'aristocratie du malheur.
Il existe une maxime Bene Gesserit à ce propos, dit sa dame.
Vous en avez pour tout,
celle-ci vous plaira. Elle dit « Ne comptez point un humain au nombre des morts aussi longtemps que vous n'aurez pas vu son corps. Et même alors, ce pourrait encore être une erreur. »